Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ce culte que vous adressez au Seigneur. Et j'aimerais tout d'abord remercier notre frère Michel qui m'a permis, qui m'a donné la possibilité de participer à ce culte et de vous parler de la part du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai souri lorsqu'on a chanté de tout notre cœur « Je serai plus blanc que la neige ». Donc, c'est juste une image qui fait sourire. Je suis content de la couleur, de la peau que j'ai, que le Seigneur m'a donnée. Mais on sait que c'est sur le plan tout à fait spirituel. Hein, notre cœur est purifié, lavé, et nous sommes lavés par le sacrifice de Jésus-Christ. Mon cœur est plus blanc que la neige. Ça me fait aussi sourire parce que souvent la thématique de couleur, c'est cette thématique qui est utilisée à l'AE pour annoncer l'Évangile. On parle de la page dorée pour dire, présenter le Dieu saint, le Dieu parfait, le Dieu qui habite une lumière inaccessible, mais pourtant il est accessible. Et ce Dieu qui prépare une place dans son paradis où les rues sont pavées d'or. Donc avec ces symboliques, ces thématiques de couleurs, on annonce l'Évangile en parlant du Dieu saint, pur. Et puis on montre aussi la page sombre qui parle du péché, notre état de pécheur séparé de Dieu, et puis la page rouge qui nous parle de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ par sa mort, par sa vie, eh bien il nous donne la vie, et puis on parle de la page blanche qui nous montre la purification. Voilà, tout cela pour dire que les couleurs nous permettent de dire bien des bonnes choses aux enfants. Très heureux aussi de voir que dans cette première partie du culte, eh bien, nous avons adoré Dieu ensemble avec nos jeunes, avec nos enfants. Et c'est vraiment un privilège. Un privilège de pouvoir ensemble adorer Dieu et ensemble cheminer sur la foi, le chemin de la foi avec nos enfants. Une question se pose à nous aujourd'hui, à notre génération. Qu'est-ce que notre génération met-elle en œuvre pour la génération qui vient? Qu'est-ce que la génération qui nous succédera, qu'est-ce qu'elle mettra en œuvre pour la génération suivante? Et on peut continuer comme ça le questionnement en disant, mais qu'est-ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui pour la génération qui vient? Le message que j'ai à cœur de vous apporter ce matin n'est pas un message culpabilisateur. Sinon, non, ça ne sert à rien que je me mette là devant vous. Mais le message, même si ce message pointe du doigt notre responsabilité, mais c'est un message qui se veut d'abord être un message de grâce. Le Dieu de miséricorde. Même lorsqu'on a failli dans la transmission de la foi à la génération suivante, même si on a failli, le Seigneur ne nous juge pas. Mais il est là pour nous rappeler que son cœur est un cœur qui bat au diapason de la miséricorde. La miséricorde, c'est la corde sensible du cœur de Dieu qui vibre face à notre misère. Alors retenez cela. Le message ne veut pas être un message de condamnation, mais de grâce. Qu'est-ce que nous allons léguer à la génération qui vient ? Si vous aviez lu le livre de Uri Bronfenbrenner, il n'est pas chrétien, enfin, à ce que je sache. Si vous avez lu son livre qu'il a écrit en l'intitulant « Deux mondes de l'enfance », si vous avez lu ce livre, et si vous avez aussi visionné le DVD « Les enfants, la grande omission », si vous avez lu le livre de Uri Bronfenbrenner, regardez le DVD « Les enfants à la grande omission » et si vous avez lu le psaume 78, et que je vous demande, quel est le point commun entre les trois? Tout à fait, aucune idée parce que vous n'avez pas lu le livre. Mais si vous l'avez lu, vous répondriez tout simplement, c'est le souci d'une génération pour la suivante. Et Uri Bronfenbrenner, dans son livre, il commence par ce questionnement. Il dit, si une société laisse à l'abandon ses rejetons, quels que soient les succès dont elle puisse prévaloir en d'autres domaines, elle risque la dissolution et la décadence.
Et ça, on ne le veut pas. Et dans Les enfants, la grande omission, il y a Patrick Johnston qui dit: si le travail parmi les enfants est négligé, on perdra la génération suivante. Ignorer les enfants signifie sacrifier l'avenir. Et ça, nous ne le voulons pas. Et ces deux personnes, Uri Bronfenbrenner et aussi Patrick Johnston, ce qu'ils disent corrobore exactement les dires du psalmiste Asaph. Et le psalmiste Asaph, je vais vous inviter à lire cela, le psaume 78, où le psalmiste Asaph pointe du doigt la responsabilité qui est la nôtre face à la génération qui vient, la génération qui succédera. Des points communs, c'est les soucis d'une génération pour la suivante. Psaume 78, et je lirai les 8 premiers versets. Et ce psaume 78, c'est le psaume de l'histoire d'Israël, où il est magnifié l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a accompli, les miracles, les prodiges, et tout cela dans le but de le perpétuer, transmettre tel un flambeau à la génération qui vient. Écoutons ce que Dieu nous dit. Poème d'Asaph. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils pour que la connaissent ceux de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Ils observeront les commandements. Ils observeront les commandements de Dieu. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Trois impératifs vont structurer le message que j'ai à vous livrer ce matin. Trois impératifs. Le premier impératif, c'est une invitation. Laissons-nous interpeller par Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui à notre génération, là, ce matin? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Laissons-nous interpeller par sa parole. C'est le premier impératif. Le deuxième impératif, c'est que ne soyons pas le maillon manquant dans la chaîne de la transmission. Ne soyons pas, je ne parle pas de maillon faible, mais ne soyons pas le chaînon manquant, le maillon qui manque à cette chaîne de la transmission. Et le troisième impératif, c'est que nous devons avoir en vue ce que Dieu a en réserve, le projet de Dieu pour les générations qui suivent. Trois impératifs: que Dieu nous aide à nous laisser interpeller par sa parole, que nous ne soyons pas ces maillons qui manquons, mais que sans cesse nous ayons en vue le plan de Dieu, le projet de Dieu pour la génération qui vient. Dans ce psaume, le psalmiste, tel un bon pédagogue, précise dès le départ ses intentions. D'emblée, nous savons où il veut nous mener. Il veut que le peuple tire les leçons du passé, plutôt tire des leçons du passé, ce que Dieu a fait, qu'il tire cela, des leçons pour l'avenir. Il ramène le peuple à observer la loi. Et deuxièmement, il cherche à transmettre aux générations suivantes l'héritage. Chers amis, nous avons reçu un héritage extraordinaire de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Serait-ce simplement se faire du souci sur leur avenir, sur ce que nous pourrons leur laisser de façon matérielle? Est-ce que c'est ça vraiment qui compte, même si c'est important? Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux générations qui viennent? Et ici, le psalmiste ne parle pas de l'héritage matériel, mais spirituel, en disant, ben, ce trésor que nous avons accumulé pendant des années dans la marche avec Dieu, ce trésor-là, eh bien qu'on ne le garde pas pour nous-mêmes, mais nous allons le transmettre. Voilà ce que Asaph veut que nous retenions ce matin ou que nous nous rappelions. Mon peuple, écoute. Telle une interpellation de la part de Dieu. Mon peuple, écoute les paroles de ma bouche. Et dès le départ, dans ce psaume 78, on voit ce qu'on appelle la poésie hébraïque, hein, qui est au fait ils appellent ça au fait c'est la poésie où la phrase est répétée deux fois, hein, c'est ce qu'on appelle le parallélisme hébraïque, synonymique hébraïque. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement, tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Mon peuple, prêtez l'oreille, fais écho à tendez l'oreille, c'est la même chose. Dieu veut nous dire, c'est important. Mon peuple, prête l'oreille, tendez l'oreille à mon enseignement et aussi aux paroles de ma bouche. Très important, et qu'on se laisse interpeller par ce que Dieu a à nous dire. Et aussi, le psalmiste promet dès le départ que le discours qu'il va donner est un discours instructif. Écoutez. Entendez. Prêtez l'oreille. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'aimerais attirer votre attention sur ce qui est dit au verset 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Ce que nous savons, on ne va pas le cacher. La question que je me pose et que je vous pose aussi par voie de conséquence, comment peut-on cacher ce message aux générations qui viennent? De quelle manière on peut cacher ce message? Est-ce que cacher ce message ne serait-il pas le fait de le taire? Le taire, alors qu'on a un trésor magnifique, la parole de Dieu, on le tait, et la parole de Dieu devient de plus en plus rare, même dans les familles chrétiennes. Cette parole n'est plus lue, n'est plus discutée, n'est plus méditée ensemble. Et est-ce que ce ne serait pas cela, le fait de cacher? Parce qu'on la tue, cette parole. C'est quoi cacher le message du Seigneur? Est-ce que ça ne serait pas aussi le fait de dire la parole et puis notre vie ne suit pas du tout? C'est ce qu'on appelle la dichotomie. Et je prie constamment que le Seigneur m'aide à ce qu'il n'y ait pas de divorce entre ce que je dis et ce que je fais. Parce qu'en le faisant, eh bien, je dissimule, je cache la parole de Dieu aux enfants. Dieu me demande de dire ce que j'ai reçu. Dieu me demande aussi de vivre ce que j'ai reçu. Et nous ne devons pas cacher, dissimuler cela. Alors Dieu nous appelle, nous interpelle. Écoute, ce que tu sais, transmets-le. Ne le dissimule pas. Le dissimuler, le taire, le cacher ou bien le contredire tout simplement par l'exemple de notre vie. Et ça, Dieu ne le veut pas. Est-ce que le fait de taire ce message ne serait-il pas aussi le fait de le dénaturer, de l'édulcorer, si vous voulez bien, le déformer? Souvent, on a dit que le travail parmi les enfants ne s'improvise pas. Ceux qui sont à l'école du dimanche l'expérimentent. Ça ne s'improvise pas, il y a besoin de travailler, de se préparer dans la prière et aussi dans la préparation matérielle pour pouvoir transmettre une parole fraîche de la Bible qui répond aux besoins de nos enfants. On peut facilement tomber dans la facilité et déformer ce message alors que le Seigneur nous demande d'être conséquent dans ce que nous transmettons aux enfants. À Alors, ce que je dis souvent à mes collaborateurs au sein de l'AE ou bien aux moniteurs que je forme, je leur dis attention, halte à la moralisation et aussi à l'évangile de la peur. La moralisation, c'est au fait ne pas se concentrer sur la grâce de Dieu, mais utiliser la parole de Dieu comme étant un marteau, on juge, on brise, on cherche quelque chose qui ne va pas ou qui va de travers pour juste taper dessus. La moralisation. Ou bien le fait de déformer cet évangile en le réduisant tout simplement aux vérités qui sont sans cesse rabâchées. L'évangile, c'est une bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous devons le transmettre avec joie et non pas avec peur. Transmettre non avec crainte, mais avec la perspective heureuse, joyeuse de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un enfant. Ne soyons pas de ceux qui, par la rigidité de notre discours, nous transmettons l'évangile comme étant quelque chose qui condamne. Mais c'est quelque chose qui amène la grâce de Dieu et nous devons le faire pour nos enfants. Halte à la moralisation, halte à l'évangile de la peur. L'évangile devrait être joyeux, halte aussi à la médiocrité, comme je le disais tout à l'heure, à rabâcher constamment le message de l'évangile. Non, mais Dieu veut faire de nos enfants des disciples, tout en allant faire des disciples de toutes les nations. Et nous voulons aussi, tout en allant avec nos enfants, leur transmettre l'évangile de la grâce de Dieu et non pas de la médiocrité. Tout cela demande du travail. Je dis aussi, halte à la tentation de vouloir forcer le bouton de la fleur à s'ouvrir. C'est un peu une image. Halte à la tentation de vouloir convertir à tout prix. C'est le Seigneur qui sauve, le salut vient de Dieu. Ne soyons pas tentés absolument à entre guillemets, vous ne le faites pas, à convertir nos enfants. Le salut vient du Seigneur. Nous devons vivre tout simplement l'évangile, donner soif, envie à nos enfants de suivre Jésus-Christ et éviter la dichotomie. Sinon, les enfants, nous voyant vivre, ils nous diront, de grâce, ne m'en parlez pas. Alors que nous voulons qu'ils nous disent avec enthousiasme, s'il vous plaît, parlez-moi de la grâce. Nous ne voulons pas que les enfants nous disent de grâce, ne m'en parlez pas, mais s'il vous plaît, parlez-moi de la grâce. Soyons pour nos enfants, nos petits-enfants, ces poteaux indicateurs. Que nous soyons pour eux, eh bien, ce modèle. Nous avons le devoir d'exemplarité. Tout à l'heure, une sœur priant en disant que ben, nous avons un Dieu, un Jésus-Christ, notre modèle, et nous devons l'imiter aussi pour être, et j'extrapole, être aussi un modèle pour la jeune génération. Soyons pour eux un modèle. Pourquoi? Parce que si tu ralentis, il s'arrête. Si tu faiblis, il flanche. Si tu t'assois, il se couche. Si tu doutes, il désespère. Si tu critiques, ils démolissent. Mais si tu marches devant eux, si tu leur donnes la main, ils donneront leur vie. Dans cette citation que j'avais lue, dans une famille qui m'avait accueilli pendant un certain temps, enfin hébergé pendant mon séjour en région parisienne, et j'étais frappé par cette citation collée quelque part sur la porte du WC. Si tu ralentis, les enfants s'arrêtent. Et on voit là-dedans qu'il y a une exagération. S'il vous plaît, les enfants nous voient. Ils sont aussi les premiers à voir les ardes d'une belle façade. Ils verront. Non, Félix, ce que tu dis là, mais ça sonne faux. Et surtout aussi dans nos familles. C'était voir que les enfants, non seulement ils voient les défaillances des adultes quand il y a une certaine dichotomie, ils le voient, mais ils sont aussi prêts à nous le dire. Alors, qu'on ne ralentisse pas, qu'on ne faiblisse pas dans la foi que nous avons en Jésus-Christ, qu'on ne se laisse pas s'asseoir, parce que les enfants vont exagérer tout ce qu'ils nous voient faire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un message de grâce. Même si on pointe du doigt les défaillances, nos défaillances, mais le Seigneur est là pour nous dire, eh bien, c'est moi qui tient les rênes. C'est moi qui suis sur le trône et nous voulons que nos jeunes aussi aient cette envie de suivre Jésus-Christ. Nous voulons une génération qui marche pour le Seigneur. Qu'est-ce que nous allons léguer, laisser à la jeune génération? La foi. Nous l'avons chanté ce matin. Je remercie le frère qui nous a orientés dans cette première partie du culte à dire notre confiance en Dieu, à dire de nouveau le repos que nous avons en Christ à cause des promesses que le Seigneur nous donne. Voilà l'héritage que nous avons et cet héritage, nous voulons le laisser à nos enfants. Que le Seigneur nous aide à nous laisser interpeller par sa parole. Dans un petit livre humoristique, Le Petit Gédéon, on parle de, je ne sais pas si ça va vous faire rire, mais c'est un frère qui arrive le matin à l'église avec toute sa famille, les enfants, la maman, alors que 30 minutes avant d'arriver au culte, il y a eu un événement. Les enfants l'ont vu. Papa était stressé, il fallait vite partir. On a traîné, il a claqué la portière de la voiture. Il faut vite qu'on parte. Énervé, on arrive à l'église. Et notre frère interpelle, « Comment ça va, mon cher frère ?» Et le frère a sorti, comme disent les jeunes, la banane du dimanche. Un grand sourire, « Comment ça va ?» Mais tout va bien, alléluia. Puis avec tout un tas d'exagérations, et les enfants ont vu ça. « Ah, papa !» Ce sourire-là, on ne l'a pas vu 30 minutes avant de partir. Voilà, juste pour vous faire rire, eh bien, nous voulons être des poteaux indicateurs, même aussi dans nos faiblesses, être prêts à demander pardon à nos épouses, devant nos enfants. Dire là, je crois que je n'ai pas été correct. Je te demande pardon et cela, ça peut avoir un impact extraordinaire. Nous ne sommes pas des surhommes ni des surfemmes. Nous sommes tout simplement de pécheurs à qui Dieu a fait grâce et nous voulons aussi vivre ces choses simplement avec nos enfants, cheminer avec eux. Qu'on se laisse interpeller par la parole de Dieu. Le deuxième impératif, ne soyons pas le maillon manquant. Si vous regardez à partir du verset 3 de ce psaume jusqu'au verset 7, si vous regardez attentivement et que je vous pose la question, combien de générations sont mentionnés, il est mention de combien de générations. Je pose cette question, je la pose souvent dans les cours de formation, certains me disent 3 générations, ils comptent, ils en trouvent 3, d'autres trouvent 4, 5, et parfois j'entends des gens dire, mais ça continue, 6, 7 générations, etc. C'est comme si moi ici, le patriarche, j'ai ma fille qui est là. Je lui transmets le flambeau. Il tient le flambeau. Il transmettra à son fils qui naîtra plus tard. Et ce fils qui naîtra transmettra le flambeau. Voilà la stratégie de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Même si dans la réalité, parfois malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut bénir Dieu ou voilà, dans certaines familles, on a vu la grâce de Dieu où le flambeau est transmis d'une génération à une autre. C'est notre responsabilité. On peut faillir, mais qu'on ne reste pas accablé. Le Seigneur est le Dieu de la grâce, de la miséricorde. Mais nous, aujourd'hui, dans notre génération présente, le Seigneur nous dit, ne soyez pas le maillon qui manque. Transmettez tout simplement le flambeau à la génération qui vient, tout en se souvenant que la foi qui sauve vient de Dieu, le salut vient de Dieu. Saint Augustin, Augustin que certains d'entre vous tous connaissent, hein, Saint Augustin a fait cette distinction latine, ce n'est pas pour paraître sage, mais je trouve que ça a une résonance particulière. Saint Augustin parle de la foi en disant la fides quae creditur. Il parle aussi de la fides quoi creditur. Et dans ces deux expressions, il y a juste une lettre qui manque. Fides, c'est la foi. Quoi et quoi est. Et il dit que la fides quoi est, c'est cette foi que l'Église, que les parents, que les évangélistes transmettre. C'est la parole de Dieu, simplement le contenu objectif de la parole de Dieu. Je transmets la parole. La fides quae. Je transmets fidèlement le flambeau. Mais la fides quae, c'est-à-dire le salut qui sauve, la foi qui sauve, c'est le Saint-Esprit qui donne. Juste pour nous dire qu'on soit aussi à notre place et qu'on ne se laisse pas culpabiliser par l'ennemi. J'ai transmis la fides quae, mais la fides quoi, c'est Dieu qui le fera. En son temps, comme il le veut, comme il entend. Mais soyons fidèles en transmettant, ne soyons pas ce maillon qui manque, mais attendons-nous au Dieu de la grâce, celui qui donne la fides quoi, la foi qui sauve. Le troisième impératif, pour terminer ce message que j'avais à cœur de vous livrer, le troisième impératif, c'est que nous ayons en vue. Que nous ayons en vue le projet de Dieu pour les générations futures. Le verset 6 et le verset 8. 6, 7 et 8. Regardez-les, mes amis. Regardez ces versets. On peut même lire à partir du verset 6. Pour qu'elle fût connue, cette foi qu'on transmet, la parole de Dieu, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et qui sont devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, j'arrête le subjonctif imparfait, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, au lieu de dire qu'ils n'observassent pas, mais qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils puissent mettre leur confiance en Dieu et qu'ils ne soient pas rebelles comme leur père. Voilà le projet de Dieu. Si vous regardez de nouveau ces versets, vous verrez que ce qui arrive en premier, c'est la foi, qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Et après, suivent bien sûr le fait d'obéir, d'observer les commandements de Dieu. Et Dieu ne fait pas les choses à l'envers. Parfois, nous, on est tenté d'attendre une vie, entre guillemets, sainte de la part de nos enfants, alors qu'ils n'ont pas encore placé leur confiance en Dieu. Nous voulons qu'ils soient ces enfants modèles, extraordinaires, mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. On fait les choses à l'envers, mais le projet de Dieu, c'est d'abord communiquer la vie, l'évangile, la foi. Que les enfants mettent leur confiance en Dieu et après viendra l'obéissance. Sinon, on va faire de nos enfants des petits pharisiens avec leur habilité. Ça, c'est aussi nous, adultes, avec l'habilité d'avoir nos jumeaux, 4-5 jumeaux de la même personne. En fonction, si je me trouve devant monsieur le pasteur, je me comporte d'une autre façon. Caméléon. Je suis là devant, dans un club de foot, etc. Je peux tenir un autre discours. Je me trouve dans ma famille, je tiens un autre discours. Vous voyez, c'est, dans la sociologie, on parle des jumeaux. On a cette capacité à changer, de se mettre en phase avec les gens avec qui nous parlons. Ça peut être une tentation pour nos enfants, parce qu'on attend d'eux certaines choses. On met la barre parfois trop haute. Il en est de même aussi pour nous. Que le Seigneur nous garde, nous préserve de cette duplicité, mais que nous soyons vrais, que nous soyons authentiques, qu'on soit le dimanche matin au culte, au travail, dans ma famille, dans mon lieu de club de foot et tout ça. Que la grâce de Dieu m'aide à rester vrai et être moi-même parce que Dieu m'a accepté tel que je suis. Qu'on ne joue pas le rôle, un certain rôle, porter des masques. Et ça, nos enfants se rendent compte rapidement. Et ça peut faire un effet contraire à ce que nous souhaitons. Mon peuple, écoute. Voilà ce que Dieu, à quoi Dieu nous invite, qui nous interpelle. Écoute les paroles de ma bouche. Ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, on ne va pas les dissimuler à cette génération, mais on va le raconter à la génération qui vient. Dans quel but? Pour que cette génération place sa confiance dans le Seigneur, qu'il obéisse au commandement de Dieu et qu'il marche et qu'il transmette ainsi de suite après à la génération qui vient. Voilà ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Comment une génération prendra-t-elle soin de la génération qui vient? Comment elle le fera? Tout simplement en transmettant ce qu'elle a de meilleur à la génération qui vient. Que ces paroles, en plus des paroles de Dieu, nous interpellent. Si une société laisse à l'abandon ses rejetons, quels que soient les succès dont elle puisse se prévaloir en d'autres domaines, elle risque la dissolution et la décadence. Et ça, on ne le veut pas. Patrick Johnston lui dit, si le travail parmi les enfants est négligé, on perdra la génération suivante. Ignorer les enfants signifie sacrifier l'avenir. Nous ne voulons pas sacrifier l'avenir, mais nous voulons transmettre à la génération qui est là, génération Y ou Z, cette génération, lui transmettre le flambeau de la parole de Dieu, et que le Seigneur nous aide, nous encourage dans cette tâche. Je vais prier. Seigneur, ta parole fait aussi un constat tragique du temps des juges, alors que Josué et aussi tout ce qui était avec lui de cette génération qui a été enterrée. Il y a ce constat malheureux qui dit que la génération qui s'est levée ne connaissait pas Dieu et elle s'est tournée vers les Baals. Tout cela, Seigneur, ça s'est fait parce que ta parole n'a pas été transmise. Nous ne voulons pas être comme cette génération. Nous voulons être de ces générations qui transmet ce qu'elle a reçu de toi à la génération qui vient. Père, je te prie, tout particulièrement pour les jeunes qui sont là, les jeunes enfants. Tu connais leur lutte, tu connais leur combat lorsqu'ils se trouvent au collège, au lycée, dans un contexte où ils sont pratiquement seuls, qui croient en toi, devant aussi les pressions du système éducatif, les pressions de leurs professeurs, même de leurs pères. Seigneur, tu vois ces combats que mènent nos enfants. Nous voulons cheminer avec eux et leur léguer, leur transmettre cette foi que tu nous as confiée, que tu as mise en nous, qui nous permet d'avancer même lorsque les évidences sont contraires, même lorsque les épreuves sont dures. Ce qui nous permet d'avancer, c'est toi, et Père, nous voulons transmettre cet héritage à nos enfants pour qu'ils soient forts en toi. Merci pour ces jeunes qui sont là, qui te servent d'une manière ou d'une autre, ceux qui ont des projets de se former en vue du ministère. Père, nous voulons les recommander à ta grâce. J'aimerais aussi te prier pour les familles qui sont là, pour les mères, pour les pères, parfois dans des contextes bien difficiles. Seigneur, accorde la grâce, donne la force nécessaire, la force renouvelée, pour que le témoignage n'empâtisse pas, mais que ce témoignage soit vrai, réel, et aide nos enfants à avancer. Je te prie pour ceux qui enseignent au niveau de l'école des enfants, là, l'éveil à la foi, là, l'accompagnement des enfants, Père, je te prie pour les moniteurs. Remplis-les de ton amour et que le travail qui est accompli, qui est fait, soit fait avec joie, avec enthousiasme, avec grâce, et que les mots qui sont communiqués soient des mots de la grâce. Père, bénis ton église locale ici. Bénis les responsables. Bénis le pasteur. Et Père, tu connais aussi les combats, tu connais les difficultés. Accompagne pour que le témoignage de ton église locale ici soit un témoignage pertinent, fort en Christ, et que ceux qui sont en Christ soient encouragés à avancer même lorsque les épreuves de la vie sont là. Nous te prions aussi pour ce week-end, avec tout ce qui se passe là-bas à Palaiseau, Père, qu'au travers de cette thématique, tu encourages ton peuple à avancer. Merci pour le combat est réel, mais merci parce qu'au travers de ce combat, Père, tu ne nous laisses pas seuls. Tu chemines avec nous. Tu nous portes lorsque nous défaillons, lorsque nous sommes faibles. Tu nous portes, et Père, que cette conversion serve à édifier ton peuple pour la gloire de ton nom. Amen.